les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1973, Richard Rein rend des visites à Jean-Luc Godard. Godard, après 68, à la fin du maoïsme, à la fin du groupe Dziga Vertov, peu après Tout va bien, réalisé avec Jean-Pierre Gorin, avant ce qu'on appellera les années vidéo de Godard. C'était aussi après un grave accident de moto qui l'handicapa pendant de longs mois, notamment sur le tournage de Tout va bien. Après 68, Godard cherchait, comme il avait d'ailleurs toujours cherché, comme il cherchera toujours ensuite. À savoir, à comprendre, à voir et à entendre, l'histoire, les rapports sociaux, les rapports amoureux, l'art, la musique, le langage, la vie et le cinéma. En 1973, Godard parlait, 5 ans après mai 68, duquel ses films auront été comme des échos prophétiques, des événements dont Godard nous semble parfois avoir été l'auteur, du montage image et de la bande-son. Clap sur Jean-Luc Godard par Pierre Girard, Richard Rein et Jeannine Chollet en 1973 sur France Culture.
Tout va bien, 5e, 2e. Tout va bien, R7, 1 bis, 2e. Tout va bien, 21, 5e.
Enfin, voir des choses que je ne suis pas capable de faire. Enfin, je parle pas du film de gangster et compagnie, des trucs comme ça, mais voir des films plus ou moins politisés ou des trucs comme ça, des choses que je suis.
Tout va bien, 11e.
Et puis aussi voir des films en me disant d'autres personnes voient ce film et ça provoque des réactions chez d'autres personnes.
Tout va bien, 28D, 3e. Tout va bien, 14, 3e.
Non, très peu, par les journaux, l'information, mais on connaît personne par ces moyens-là.
Tout va bien, 024, 4e.
Clap à côté, et clap, c'est quoi? C'est quoi un clap?
Je veux faire un film.
Pour faire un film, faut de l'argent.
Pierre Girard, Richard Rein, Jeannine Chollet, clap sur Jean-Luc Godard.
Clap sur, à mon avis, justement, ça ne dit. C'est employé un terme technique qui ne dit pas grand chose aux gens. Alors que quand vous dites clap sur Godard,
oui.
Puisque le clap c'est un truc qui sert à synchrone, alors vous voulez synchroniser quoi de Godard? Et là, ce que j'essaye de vous faire dire, c'est pour quelle image vous voulez mettre les images en face des sons. Alors j'essaye de vous faire dire quelle image, dans le cinéma, c'est le problème du cinéma et de la télévision, quelle image on veut les mettre en face, mais quelle image veut-on mettre en face l'une de l'autre? Ah oui, mais l'ennui, c'est qu'on n'est pas... Je suis pas une image, justement. Et qu'est-ce qui vous intéresse de parler de moi-même, par exemple, plutôt que de vous-même?
Tout le phénomène de 68 a récupéré énormément de choses de Godard, puis lui, il n'en est plus du tout à ça. Or, nous, on est toujours en 68, 5 ans après, ce qui est complètement aberrant. Et lui, il cherche autre chose, qu'en ce moment, d'ailleurs, il ne trouve pas. Oui, mais ça, je pense que ça doit exister pour à peu près tous les créateurs. Quoi. Les véritables créateurs. En fait, la position du metteur en scène qui fait un film par an, c'est assez aberrant. Quoi. C'est comme la position du peintre qui fait un film, un tableau par mois. C'est pas, je veux dire, c'est pas tout à fait sain au niveau de la création. C'est certainement faux. Si tu prends les grands artistes, les véritables grands artistes ont toujours eu des périodes complètement dépressives, de disparition totale, ou des moments où ils ont plus ou moins écrit, où ils ont plus ou moins disparu de la scène, où ils ont fait des choses qui n'intéressaient plus personne. Ça, c'est très net. Je crois que lui, il n'y a aucune raison, je veux dire, vu son âge et tout ce qui se modifie, il va retomber sur ses pieds, quoi, il n'y a aucun doute. Seulement, il retombera sur ses pieds peut-être encore plus loin.
Si on prend des vedettes, on nous donnera de l'argent.
Bon, alors il n'y a qu'à prendre des vedettes.
Et qu'est-ce que tu vas leur raconter à Yves Montand et Jeanne Fonda? Parce que les acteurs, pour qu'ils acceptent, il leur faut une histoire.
Ah bon, faut une histoire?
Ouais, une histoire d'amour en général.
Tu te dis, l'individu en lui-même, il va nous dire comment il se voit. C'est des trucs que je comprends même plus. Après 15 ans de travail dans le fait de voir, je m'aperçois que j'ai perdu là, depuis longtemps, la notion de voir, que je ne sais plus voir, que les autres sont comme moi, qu'ils ne savent pas. Et en plus, qu'ils ne savent même pas qu'ils ne le savent pas. Moi, je commence à me rendre compte, parce que je suis là-dedans depuis 15 ans, que je sais que je ne le sais pas. Les autres, toi en particulier, tu ne sais même pas que tu ne le sais pas. Ce qui fait que tu emploies des formules toutes faites, et comme elles sont toutes faites, tu crois que ça peut faire quelque chose, qui est comment ils se voient. Mais comment ils se voient, je peux te montrer un miroir, je me vois tous les matins dans la glace, puis ça m'en dit pas plus long. Je peux te montrer ma photo d'identité prise par la police. Ça me donne un certain nombre de paramètres, et puis c'est tout. Ce qui m'intéresse, c'est voir c'est fait de quoi, ou entendre c'est fait de quoi. Visionner la parole, si tu veux. Or, tout ça, il faut faire des expériences, enfin, montrer et apporter un regard critique. Un regard critique ne veut pas dire le même regard à un autre endroit, veut dire un autre genre de regard pour moi porter. C'est ça le mot culture, si vous voulez. Moi, je pensais juste parler de culture, si tu veux. Qu'est-ce que c'est que la France culture? Il faut regarder que le mot, c'est un jeu de mots, mais il est intéressant en France. Dans culture, il y a cul. Et il y a une expression qu'emploient les prolos, si tu veux, qui leur vient de leurs mains, qui est « parle à mon cul, ma tête est malade ».
Journal L'Express, février 73. Pierre Soudet, président de la commission de censure. Pour ma part, je crois que tout doit être fait pour que le citoyen dans notre monde soit un véritable citoyen. Mais en même temps, il me paraît que les agressions dont est victime l'homme de ce temps, la manière dont il est investi et grignoté de mille façons, sont telles qu'il n'est plus tout à fait ce citoyen libre, responsable et de sang-froid qu'il fut dans le passé. Il leur deviendra, je l'espère fermement, mais il ne l'est pas encore. Je le vois un peu comme un escargot entre deux coquilles, ce qui ne l'assimile pas à une limace, mais fait quand même de lui un corps assez vulnérable.
On vit dans un monde fou, comme on dit, sans arrêt. Je suis fou, je suis déphasé, ça va plus, je suis à plat. Je suis à plat parce qu'on est aplati. Je suis aplati parce que simplement, il y a une sorte de support social et je ne suis qu'enregistré. On retrouve du reste tous les termes de l'audiovisuel et des choses comme ça. Je suis aplati parce que j'ai perdu le sens de la vision. Je ne vois plus, je lis. Les gens croient qu'ils voient des images. Moi, je commence à découvrir que ce qu'il y a de puissant à la télévision, c'est le son. Et c'est pour ça que la radio continue à exister. Ce qu'il y a de puissant à la télévision, c'est le son, c'est l'oreille. Et l'œil, depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge, depuis les débuts du capitalisme, enfin, ou même depuis les Grecs, est accroché, et du reste il y a l'emploi accroché aussi dans le domaine de la télévision, l'image est accrochée par le son, et on fait croire qu'elle est importante, et le cinéma était très important là-dedans, dans la manière dont depuis l'invention de la photographie, ça a joué. On fait croire aux gens que l'image est importante à la télévision. L'image n'est absolument pas importante à la télévision, c'est le son qui est important. Essayez, lors d'une conférence de presse de Pompidou, essayez à la télévision, où l'on prétend que l'image est importante, où M. Arthur Comte prétend qu'il n'y a que l'image, essayez de supprimer le son de Pompidou. Les gens diront « ça va pas ». Ils veulent l'entendre parler. Qu'ils disent des conneries ou pas, ils veulent l'entendre parler. L'image n'a aucune importance.
Tes personnages, où ils vivent? À quelle époque? Comment mangent-ils? Écoute précise! Bon, il y aurait un pays.
Dans ce pays, il y aurait des campagnes. Et dans ces campagnes, il y aurait des villes. Dans ces villes, il y aurait des maisons. Et dans une de ces maisons, il y aurait lui. Et dans une de ces maisons, il y aurait elle. Et il y aurait elle et lui.
Tout ça, c'est encore trop vague.
Attends. Il y aurait beaucoup de gens.
Il y aurait des ouvriers.
Il y aurait des paysans.
Et des bourgeois. Et des bourgeois, petits et grands.
Il faut repartir entre de la autres. Consommation. Il faut partir du fait qu'il y a production de tas de choses. Mmh. Il y a production de biens matériels. Il y a production de la diffusion de ces biens matériels. Et puis après, il y a production de la consommation de ces biens matériels. C'est là qu'est la psychologie, le système biologique nous l'apprend aujourd'hui. Comme ça, il y a l'espèce de schéma qui est le métabolisme complet. Comme ça, on n'est pas différent des fleurs ou des animaux, comme ça. Et par rapport, quand on différencie la télévision et le cinéma, il faut les différencier beaucoup plus par rapport à la consommation, parce que la télévision a pris le relais du cinéma au niveau de la consommation. Qu'est-ce que c'est le cinéma ? Le cinéma, c'est être plusieurs dans une salle à recevoir la même image. La télévision, c'est l'inverse exactement, c'est la même image, mais dans plusieurs endroits différents. C'est-à-dire à la télévision, tu es seul à être plusieurs. Enfin, c'est pour ça que tu acceptes la télé. Alors qu'au cinéma, tu es plusieurs à être seul. C'est très différent. Et l'inverse, et ça peut se reproduire. Tu n'es pas du tout gêné à la télévision de savoir que l'autre n'écoute pas la même chose que toi. Au cinéma, tu en es très gêné. Et donc, c'est des notions de désir et de social, de désir d'être l'autre tout en restant soi-même, que n'avait pas su satisfaire assez fort le cinéma, et que la télévision, avec le développement de l'électricité et des moyens de communication, a répandu où les gens peuvent à la fois être 40 millions en ayant l'impression qu'ils sont tout seuls, qu'on les aliène pas. Et c'est précisément dans la manière dont se fait ça qu'ils sont plus qu'aplatis et comme ça. Mais il faut voir aussi, moi je gueule pas contre la télévision, j'ai appris à moins gueuler contre la télévision comme une autre, parce que je vois qu'il y a une part de moi-même qui désire ça. Il y a une part de moi-même qui est d'une sombre connerie et qui désire Guy Lux ou qui désire Bouvard et Samedi Soir.
And as for Kavanagh, in this morning's edition of Charlie's Hebdo, he writes, and I quote, "The written press is dying, a death it brought about itself. After years of building themselves a
La presse écrite crève. Elle a bien cherché. S'est enfermée elle-même dans le piège à rats, dans le piège à cons. Était-il content, les grands journaux de la grande presse, de maintenir, grâce au sale pognon de la pub, le prix de vente tellement bas qu'il ne paye même pas le papier."
Close quote. This is Susan DeWitt reporting from Paris for the American Broadcasting System.
That's fantastic, thank you. Yeah.
Là, c'est l'expérience type qu'on fait depuis 5 ans, si tu veux. Tu peux injurier un mec comme ça, et c'est non plus pas juste de faire comme ça. Mais effectivement, il y a quelque chose qui fait qu'il ne veut pas parler. Il se plaint de ne pas pouvoir parler, mais en fait, il veut parler quand il a envie de parler. Et il a le même problème que moi, parce que moi, j'ai aucune envie de parler en ce moment. Et puis quand même, je dois développer des trucs. Et puis quand même, dans cette non-envie de parler, il y a des trucs que j'ai envie de parler. Et que même si on parle les deux ensemble comme ça, en fait, ça va être trop court. On n'a que 53 minutes et on sera coupé. On sera amputé, on sera trop... Et on le sera comme tout le monde. Mais je pense que le son de ceux qui écoutent est beaucoup plus intéressant à produire que le son de ceux qui parlent pendant un moment. Puisque, effectivement, il y a une... Il y a un fascisme du son global depuis deux ou trois siècles qu'on peut exprimer. Moi, j'exprime aujourd'hui par « Abat la dictature du sens »,« Abat la dictature globale ». Et puis, c'est un truc que je fais passer peut-être un millième de seconde toutes les 24 heures ou même pas.
Oui, mais...
Et qu'effectivement, le son de ceux qui écoutent, le vrai problème, ce n'est pas tellement forcément de faire parler ceux qui écoutent, qui ont envie d'écouter. C'est d'arriver à traduire le silence de ceux qui écoutent, qui est une espèce de parole en parole. Il n'y a pas un truc que j'arrive à résoudre nulle part. On peut prendre les gens un à un en faisant un long travail. Là, le truc intéressant, c'est de parler qu'un mec qui enregistre du son et de faire comprendre pourquoi il veut toujours enregistrer le son des autres et jamais le sien. Pourquoi ? Pourquoi Alors ? Tu n'es pas intéressé à ton son ?
Ah si, c'est mon métier, c'est tout.
Et pourquoi on n'entend jamais ton son, puisque tu es intéressé à lui?
Parce que je ne peux pas.
tu ne peux pas, moi je peux bien, un petit peu.
Moi je peux pas.
Ben, tu peux si tu veux, parce que moi j'ai été dans la... Très souvent je peux pas. Par exemple, à l'ORTF, je peux pas parler plus que toi. Ça, c'est pas vrai. Et toi, tu y es à l'ORTF et moi, j'y suis pas. Donc, tu as plus de facilité déjà, parce que tu es déjà chez toi sur ton terrain de lutte. Alors, moi, je dis, pour te provoquer, que si tu ne peux pas, il y a effectivement que tu ne peux pas, et puis il y a une part de ce ne peux pas qui est que tu ne veux pas. Et qu'il y a quelque chose dont tu te satisfais profondément de ne pas parler, de continuer et de dire après, peut-être qu'après, ou d'autres le feront pour moi. À ce moment-là, je le ferai. Mais que déjà, ton petit son à toi, que moi j'appelle un grand son, puisqu'il a rapport avec ton cul, tes yeux, ta femme, tes impôts, ton fric, c'est-à-dire tous les mêmes trucs que moi, et c'est ce que j'appelle un grand son, et bien justement, celui-là, tu n'en parles pas. Ou que quand tu en parles, soigneusement, tu en parles en dehors. Tu en parles en dehors parce que tu sais que ça va être barré, et puis qu'à un moment, c'est trop difficile de mener la lutte, on ne sait pas comment. Alors, on n'en parle pas. Si, moi, je suis un technicien de l'ORTF en exil, mais qui a choisi l'exil plutôt qu'autre.
Vous savez, à mon avis, hein, cela relève plutôt de la psychiatrie. Quelque inadapté, il y en a dans les usines comme ailleurs, s'exprime en tentant un coup, comme ça, par hasard, par force, sans s'entraîner véritablement la masse, contre le vœu des syndicats. On ne peut pas en tirer des leçons d'ordre général. Non, écoutez, restons sérieux, non. Que vient faire les mots lutte de classe là-dedans? Vous continuez à employer un vocabulaire du 19e siècle. Mais les temps déjà vus, criantes dénoncées par Marx ou Engels, c'est bien passé, non? Mais non. Mais comment ne pas voir que l'histoire de Saint-Vincent dernière année provoque une immense déception ou désillusion à nombre de philosophes d'inspiration marxiste critique de la société des consommations?
Bah, ce qui me plaît dans Godard, c'est qu'à chaque fois que je vais le voir, c'est différent de ce que j'en attends. Et je ressors, j'y pense, et plus j'y pense, plus je trouve ça beau, plus j'entends les gens en parler d'une manière idiote, plus je me dis, ils n'ont rien compris, et plus chaque fois je trouve ça beau. C'est en écoutant les conneries que peuvent dire les gens à propos du film que je comprends le film.
Écoutez, vous n'allez pas me dire à moi qui suis dans cette usine 8 heures sur 24 et ça depuis 7 ans que les regrettables incidents de ce matin sont le fait de plus de 2 ou 3 excités, qui s'étaient d'ailleurs déjà signalés à notre vigilance. Dans notre usine, comme ailleurs, la majorité des travailleurs est pleinement responsable.
Et à la part de moi-même qui ne veut pas changer, ah, effectivement, je vois que je n'ai pas changé grand-chose. Parce que le moindre son un peu nouveau, chaque fois que j'ai pu qu'on commence à pouvoir l'apporter un peu maintenant, effectivement, on n'arrive pas à l'apporter. On n'arrive pas, bon, on est complètement en exil, comme ça. Mais ce qui m'ennuie, c'est que tu pars toujours du fait que tu es, disons, producteur de production.
Oui.
Et tu ne pars jamais de l'aspect en toi-même qui, d'une part, participe à la diffusion de ce produit, puisque tu es à l'ORTF, et qui, à l'autre bout de la chaîne, le consomme. Alors, un des grands progrès que j'ai fait, c'est de ne plus me considérer en tant que producteur, mais en tant que producteur-diffuseur et producteur-consommateur. Et que la part de moi qui produit des films est en fait divisée en 3. Et qu'un des tiers de cette partie, très souvent donné, occupe la totalité. C'est celle qui consomme les films. Parce que si j'ai envie de produire des films, c'est parce que j'ai envie d'en consommer. Et j'ai envie d'en consommer parce que c'est le seul moyen que j'ai, appelons film, appelons information si tu veux, j'ai envie d'être producteur d'information parce que je vois bien que je ne reçois que des informations des autres et j'ai envie, pour moi-même, d'être lié aux autres. Non pas pour les autres, je me fous des autres en principe. Mais il se trouve que pour exister moi-même, je ne peux exister que par le biais des autres. Je ne devrais pas dire, quand je dis à une femme « je t'aime », je comprends, je dois plus dire maintenant « je n'aime que moi ». Mais je découvre que pour n'aimer que moi, pour ne mieux aimer que moi, pour mieux fonctionner moi, je ne peux que passer par toi. Et donc « je t'aime », mais « je t'aime pour m'aimer mieux ». Et que l'autre, puisque moi je dis ça, je comprends que l'autre dit ça aussi. Et que c'est ces deux boucles qui s'assemblent, c'est ces deux boucles qui s'assemblent ensemble. Et qu'effectivement, on peut résumer ça en disant « je t'aime toi », mais on a tendance à oublier le « pour m'aimer mieux moi ». Parce que moi, je m'intéresse beaucoup à moi-même. Et que m'intéressant beaucoup à moi-même, je comprends enfin pourquoi quelqu'un d'autre
peut aussi s'intéresser beaucoup à lui-même.
Bon patron, bon patron, si tu penses pas le patron, t'auras pas sa galette. Si tu penses pas le patron, si tu penses pas le patron, t'auras pas son pognon. Pas le patron, pas le patron.
Journal L'Express, février 73. Pierre Soudet, président de la commission de censure. Vous partez en guerre au nom des principes contre le contrôle cinématographique. Mais il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces interdictions totales, qui vous indignent tellement, portent annuellement sur moins de 30 films par rapport aux 600 ou 700 qui sont produits ou importés en France. Et sur ces 30, il y en a 15 qui sont des non-films, comme on dit des non-sens. Des accumulations de choses hétéroclites et incohérentes dont on ne saurait pas dire que l'étouffement peut constituer l'ombre d'une atteinte à un droit à l'expression.
C'est le cinéaste le plus important du cinéma français. Pourquoi ? Pas seulement parce qu'il a fait de beaux films ou des films auxquels on prend un certain plaisir ou même devant lesquels on éprouve une irritation intéressante, mais c'est le cinéaste le plus important parce qu'il a posé les problèmes politiquement. Et en ce sens, il a joué un rôle très très important. Il a posé le problème, pourquoi faire des films, pour qui, à quoi ça sert, et quel type de film doit-on faire aujourd'hui si on veut tenir un discours politique qui ne soit pas simplement la diffusion d'un message, mais qui soit aussi la mise en question des formes dans lesquelles le message doit être diffusé.
Chanson gauchiste.
Monsieur le patron, cette fois ça ira mal pour toi. Si tu veux traiter avec nous, tu devras constater que tu ne peux pas. Et cette fois, on va pas se laisser acheter avec 10 francs d'augmentation. Si tu donnes 100, nous on veut 1000. Si tu donnes 100 000, nous on veut plus. Monsieur le patron, tu nous as eu avec tes ruses, tes délégués, tes projets partent en fumée car on se bat contre toi. Les qualifications, les catégories, on n'en veut plus. Les divisions, c'est fini. À la chaîne, on est tous unis. C'est marrant, c'est comme à la télé. Il y a le journaliste qui pose des questions à la con, le mec qui parle et puis autour, d'autres qui n'osent pas interrompre.
Non, moi je crois que la période la plus intéressante de Godard, c'est les films qu'il a fait juste après mai 68, qui sont des films qui ne sont pas sortis dans le circuit commercial classique, parce qu'ils n'étaient pas destinés à ce circuit. C'est des films qu'il a fait dans ce qu'on appelle le groupe Dziga-Vertov, qu'il a fondé avec quelques-uns de ses camarades. Ce sont des films en 16 mm qui ont une diffusion essentiellement parallèle, c'est-à-dire dans les universités, dans les lycées, dans les semaines de ceci ou de cela, qui n'ont donc pas eu une diffusion commerciale de type classique. Et c'est des films vraiment passionnants, je pense, Avant d'Est par exemple, qui au départ a été produit par le système et qui ensuite s'est révélé un produit inutilisable par le système. Je pense à Lutte en Italie, aux films de ce genre-là. Qui sont importants parce que précisément là, on voit un cinéma au travail qui est celui que le système cinématographique, que l'industrie du cinéma censure toujours. Ce type de film n'est pas exploitable dans le circuit classique, on ne peut pas le produire de la façon classique parce que ce sont des films de recherche, d'expérimentation où on travaille sur le cinéma, sur les formes cinématographiques et sur la fonction du cinéma en même temps et où on fait participer le spectateur à ce travail. Ça, c'est très très positif. C'est la période la plus intéressante de Godard, je trouve.
Chanson gauchiste.
Monsieur le patron, cette fois ça ira mal pour toi. Nous sommes fatigués d'attendre et nous faire matraquer. On continue à travailler et les syndicats disent toujours d'attendre, d'espérer. Mais de lutter, ça, on n'en parle jamais. Monsieur le patron, on s'est réveillé. Et cette fois, ça va cogner. Et cette fois, c'est nous qui déciderons comment lutter. Et les pas d'accord qui se débinent. Écoute le silence de tes usines. Demain, peut-être que tu entendras le bruit de la mitraille.
Alors, je dis, il n'y a plus d'image aujourd'hui.
Oui.
Que les images qui sont des images ne sont plus des images. C'est des sens, c'est des lectures de sens. Tu vois un paysage, tu vois une... Quand tu vois, je veux dire, une photo d'un palmier et de trois baigneurs et comme ça, tu peux dire que tu vois. Moi, je dis, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, c'est une vision intégrée et qu'elle est intégrée dans du son et dans une lecture. Vacances idéales, vie infernale ou comme ça. C'est en sens que je dis qu'on ne sait plus lire, on ne sait pas plus voir l'image. On a perdu depuis longtemps ça a commencé avec Gutenberg, le sens de la lecture. Et que les moyens audiovisuels ont fait croire que c'est le contraire de Gutenberg, mais c'est Gutenberg puissance 10 000 ou 10 milliards, qu'au contraire, le sens de la lecture est tellement fort que on peut, au contraire, on dit que l'image est toute puissante et qu'on fabrique des tonnes d'images alors qu'on fabrique toujours le même son. Et que moi, ce qui m'intéresse, c'est des différences entre l'image et le son pour faire des rapports, parce qu'il n'y a de rapport que parce qu'il y a des différences. Si tu émets à une borne d'un courant électrique la même intensité, tu n'auras pas de différence de potentiel. N'ayant pas de différence de potentiel, tu n'auras pas de courant. N'importe quel enfant le sait à l'école. Mais ensuite, quand on sort de l'école, on vous impose une sorte de code qui fait que vous oubliez ça dans la vie sociale. Et qu'on travaille, qu'on vit, on se fait cuire un œuf, on allume une lampe électrique suivant des principes que les hommes ont conquis. Et ensuite, c'est complètement atomisé, écrasé, et on s'en sert plus dans des tas d'autres domaines, qui est la vie affective, ou la vie du désir, ou la vie de l'émotion, ou la vie de l'invention, ou des choses comme ça. On arrive à un truc très curieux en ce moment, c'est que tous les fabricants de ce qui s'appelle le hardware en électronique, c'est-à-dire d'équipements audiovisuels à base électronique, si tu veux, on construit ces machines, magnétoscopes, vidéos, tout ça, on construit ces machines en oubliant complètement que les idées grâce auxquelles elles pouvaient construire ces machines venaient d'un certain type de produit audiovisuel qui était l'apanage de la photo et du cinéma qui dominait le monde à cette époque. Et que si tu veux, on fabrique un matériel en PEX ultra moderne, mais on le fabrique, c'est la manière dont autant n'emporte le vent a été fait, qui a fait qu'on a fabriqué ce matériel, et qui fait que, par exemple, nous aujourd'hui, on ne peut pas s'en servir, parce qu'il a des tas de qualités qui n'a pas, si tu veux. Et qu'il n'y a pas d'image, si tu veux. L'exemple, c'est Averti à la télévision, par exemple. Averti qui croit que parce qu'il divise l'image en 18, il fabrique 18 images. Mais qu'est-ce que c'est? Le moindre enfant qui fait un dessin fabrique des commutations et des permutations, fabrique 1000 permutations ou commutations d'images avec 2 couleurs et 3 formes. Même pas. Averti, il fait rien. Il divise, c'est rien. Et c'est parce que c'est rien et qu'elle fait croire que c'est quelque chose, que précisément, les gens sont complètement asservis par ça. Et on désire d'être asservi, parce que c'est pas fatigant à penser. Un film d'Averti, tout a l'air mâché pour toi, c'est toi qui es pris à la moulinette, et qu'il y a quelque chose en toi, et là je rejoins ce que je lui disais, il y a quelque chose en toi qui fait que tu es profondément paresseux à créer ton propre son et ta propre image, et à le transmettre, et que tu acceptes les autres. Mais les autres, ceux qui... Les autres, il y en a certains qui sont tout à fait d'accord de vivre comme ça.
On ressentait de même quelque chose de nouveau. C'était tout à fait différent. Tout à fait différent. Et finalement, c'était le seul qui soit véritablement différent. En fait, quand on voyait le Godard, en voyant le Godard, on s'est rendu compte de ce que voulaient faire les autres. Et ce que finalement, ils avaient raté depuis 3 ans. C'est-à-dire remettre en question le système de montage, de présentation, de direction d'acteurs, etc. Tout ça a été complètement pris à contre-courant, et c'est là, finalement, lui a beaucoup mieux que Truffaut, Chabrol, Rivette, a véritablement appliqué les théories que les autres avaient exprimées, mais qui n'étaient jamais arrivés à matérialiser. Enfin, qu'ils ont des fois matérialisé, qu'ils ont plus ou moins réussi, mais ce qu'ils voulaient faire, c'était à bout de souffle, tous. Manifestement, enfin, c'était... Et ils le ressentaient, d'ailleurs. Et ce qu'ils en disaient, c'était ça.
Vous êtes journaliste, je crois.
Oui.
Et vous allez écrire quelque chose sur ce qui se passe?
Je vais essayer.
Alors, il faudrait qu'on vous explique.
Quoi?
Je sais pas, moi, la boîte, et puis tout.
Je crois que j'ai compris le problème, papa, dans son ensemble. Je crois.
Mais vous avez rien demandé, presque rien.
Vous m'avez pas laissé le temps, et je comprends ça très bien. Mais j'ai vu ce qui s'est passé.
Oui, mais c'est plus compliqué, les raisons. Il faudrait qu'on vous parle des conditions de travail pour que vous vous rendiez compte.
comme le papier est un support qui sert à exposer des signes, la pellicule photographique ou magnétique est un support qui sert soit à enregistrer un signal, soit à exposer des signes chimiques ou photographiques. J'essaye simplement d'exposer des différences. Ayant exposé des différences, tout seul, je ne peux rien en faire. Je suis forcé d'aller aux autres pour essayer de de construire quelque chose. Enfin, je fais des films pour ne plus... Parce que je comprends que la nécessité de ne pas être seul. De même que la cellule biologique ne vit que pour mon rêve, c'est qu'il y ait une autre cellule pareille. Et le rêve social, c'est qu'il y ait une autre cellule pareille à moi et qui fonctionne différemment de l'ancienne cellule. Puisque l'ancienne cellule, je n'en suis pas très content. C'est ça que j'appelle la révolution. Voilà. C'est que je me retrouverai avec des gens avec qui je fais le film, mais qu'on arrivera à se penser aussi comme gens qui reçoivent le film. Et que travailler avec quelqu'un, c'est être avec lui au moment où il me reçoit. Et lui travailler avec moi, c'est au moment où ce qu'il aimait, je le reçois. Comme baiser avec quelqu'un, c'est au moment où j'aimais du sperme et que lui aimait, si c'est une femme, autre chose. C'est précisément qu'on est ensemble, que quand lui donne, moi je reçois. Si on donne les deux ensemble, c'est fini. On est aplati, on est pareil, on est parallèle. Et il y a un grand désir de nous d'être parallèle, de se reproduire, et ça vient de notre fonction biologique. On voudrait bien se reproduire tel qu'on est, parce que c'est fatigant de vivre. Il faut se développer, on se heurte à l'extérieur. Bon, tout aussitôt, ça y est, ça machine...
J'ai entendu parler, de la chinoise, mais c'est tout ce que je connais. C'est tout.
Ah oui, j'ai vu quelques-uns de ses films. Enfin, je me souviens pas des titres, mais... Oui, c'est un type qui m'intéresse un peu, ouais.
Non, sur le spectateur, finalement, ça n'a eu aucun rôle. L'influence, elle est venue après, quoi. Elle est venue sur les gens qui avaient 20 ans, 22 ans, 23 ans, qui ont vu, et finalement... Enfin, Polanski, Bertolucci, tous ces gens-là sont Pasolini sont très 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 proches de Godard, même les Américains. Le spectateur, lui, en tant que spectateur, il s'est dit, bon, bah, c'est un film un petit peu différent, mais pas plus que les 50 ou 60 films soi-disant d'avant-garde qui sortent tous les ans, quoi. Et qui ne sont pas d'avant-garde, mais... Je crois pas. Enfin, il y avait une énorme caution intellectuelle dessus. Moi, je m'en souviens très très bien. Il y avait vraiment tout le monde avait signé, avait dit c'est admirable, etc. Il m'interviewe sur Godard.
Et puis ensuite, tu les ficelles.
Oui, bon, ceci dit, je remarquais, là, t'as vu, les Griffiths, ils sont partis. C'est-à-dire que les 7 meilleurs films du monde qui sont passés au studio Action Lafayette, dans une salle de 90 places, ils n'ont pas fait suffisamment d'entrées pendant 2 semaines pour pouvoir rester à l'affiche. Alors Griffith, c'est tout de même encore plus important que Godard. Personne n'a été les voir, donc je veux dire, c'est pas une insulte pour Godard, les gens ne connaissent pas.
Il paye 1000 balles pour voir, en échange de ces 1000 balles, il voit un truc sur un écran qui a coûté soit 1000 balles, soit 10 milliards, et qu'il y a un échange qui se produit là. Un échange d'un type à la fois commercial, matériel, et un échange de type désir, biologique, je ne sais pas. Et qu'ils échangent leur cul réel sur un siège réel, soit chez eux si c'est la télévision, soit dans des locaux spécialisés si c'est le cinéma, ils l'échangent contre un rêve. Or, moi, je veux rêver, mais je veux montrer, exposer mon rêve, pour que je puisse fabriquer d'autres rêves. J'ai envie de rêver. Là, je suis asphyxié par l'ORTF où je trouve que tout c'est de la merde parce qu'on m'empêche de rêver. Et que tous les gens qui ne savent pas le dire, ils ne savent même pas. Alors moi, j'essaye de dire comment on m'empêche de rêver. Je n'essaye pas de dire comment je peux rêver puisque je ne peux pas, je parle de ma situation. J'essaye de dire comment on m'empêche de rêver. Que chante la France ? Mais je suis d'accord, mais je ne sais pas chanter. Quelle chanson on va chanter ? Chanter quoi ? Je ne suis pas d'accord avec les chansons. Que chante la France ? Tout le monde est d'accord. Mais ça, c'est criminel de dire ça. C'est là où c'est criminel, crétin, un très intelligent, ou pas, connerie, je sais pas du tout. Mais c'est là, quelle chanson voulez-vous ? Mais quelle chanson Arthur Comte me fait de sa vie ? Quelle vie humaine ? Moi, j'essaye, pour parler de ma vie, je ne sais pas faire chanson. J'ai ni les notes, ni la voix, ni les trucs. Je vis avec une fille qui sait chanter. Elle a la voix, mais elle n'a pas les notes. On vit avec un enfant, bon, il a les notes, Mais il a ni la voix, ni... Enfin, etc. Or, tout ça, on a tous envie de chanter. Il faudrait maintenant deux heures que vous parliez tout seul entre vous, qu'ensuite qu'on réécoute tout, et puis qu'on entende ce travail qui se fait, qu'on voit si on peut construire un petit truc différemment, et qu'on dit voilà notre avis, ce qui aurait dû être un petit peu dit. Si on faisait du silence ici, si simplement on s'arrêtait, on parlait beaucoup plus lentement. Or, on voit, moi je vois là que j'ai à la fois très envie de parler très lentement. Et puis, disons franchement le truc, on sent que quand on... Là, il y a vraiment deux trucs qui se passent en moi et pareil chez vous. Il y a à la fois une espèce de précipitation folle qui fait qu'on sent que ce silence est un peu artificiel, mais que cet artifice est une mauvaise traduction de quelque chose de très profond qui est du temps, soufflons, les 40 heures. Là, en une heure, mais on a fait 10 fois plus que nos 40 heures équivalents. On a fait, je sais pas, 400 heures, là, au moins, en une heure.
On croit qu'on peut penser à autre chose. Ben, en fait, c'est pas vrai. Parce qu'il y a la cadence, et qui change, plutôt en augmentant.
Moi, j'ai fait un grand progrès, déjà, en abandonnant le slogan gauchiste... Ah ben la société de consommation, vive la société de consommation, mais je veux pas consommer comme ça. Mais je ne sais pas, je veux avoir la possibilité de savoir peut-être comment je veux consommer. Moi je veux commencer à trouver parce que j'en ai un peu marre de chercher.
Jean-Luc, excusez-moi, je connais pas. Oui, 19 ans.
Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes étudiante?
Oui.
Ou... En quoi?
Lettres.
Mes films aujourd'hui, ils passent à... Régie, presse, publicité. Le seul truc qui est inventé un peu à bout de souffle, ça a été repris par la publicité. Oui. Tous mes films passent à la Pierrot le Fou, c'est Bleustein Blanchet aujourd'hui.
Oui.
J'ai appris à Bleustein Blanchet à faire des films pour frapper les gens. Je ne voulais pas les frapper comme Bleustein Blanchet. Moi, je m'aperçois que j'ai fait 15 ans de prise de vue et que je commence à me demander en vue de quoi. Et que ça m'aide beaucoup parce que je peux demander à quelqu'un, j'ai envie de faire un film sur ça, en vue de... Mais si je lui dis simplement j'ai envie de faire un film sur ça, l'autre me dira très intéressant, ou bien au contraire me dira chier, pas du tout intéressant. Mais si je lui dis en vue de quoi? J'ai envie de faire un film pour que les 8 heures que tu auras gagnées en passant de 40 à 48 heures, ce film te donne des idées sur ces 8 heures. Ou au contraire, si tu en as déjà, viennent te montrer qu'il y en a d'autres, ou soit appuyer les tiennes si je suis d'accord. Donc ça me force à demander à l'autre, que veux-tu faire de ces 8 heures? Je veux dire, il y a déjà une possibilité. Je commence à pouvoir me dire, je veux faire des films. La différence entre moi et la Paramount ou l'ORTF, c'est que, ou moi et Gorin, puisqu'on travaille avec Gorin, entre Gorin et moi, c'est que on commence à... Nous, on veut faire des films qui vont produire d'autres films. Mais pour, en vue de quoi produire d'autres films?
Qu'est-ce que t'appelles produire d'autres films précisément?
Je veux fabriquer un film qui, une fois qu'il a été vu, senti, parlé, ne fût-ce que par les gens et qu'ai-je vu, me permette d'en produire un autre. La fin de la production, c'est de continuer à produire. Alors moi, je veux continuer à produire, mais non pas reproduire exactement, produire différemment. Parce que j'ai pas envie de continuer à vivre... comme je vis, j'ai envie de continuer à vivre autrement. J'ai pas envie de rester un enfant toute ma vie avec une grosse tête et des toutes petites mains. J'ai envie de devenir bon, un adulte, puis après j'ai envie de devenir un vieillard, puis j'ai envie de me rapprocher de la mort. Ou dans cette envie, il y a une peur aussi. Enfin, j'ai envie de changer.
Et je pars de mon fonction.
Alors, un film n'en est que la traduction au niveau de la communication de ça. j'ai envie de produire une information qui me permette après de produire une autre information. C'est pas parce qu'on appelle un truc Guy Lux et l'autre Info 2 que ça sera pas en fait le même film sous deux étiquettes différentes. Et là, d'où vient la notion d'étiquette qui est extrêmement importante, et de code et de tout ça, parce qu'on fait croire aux gens qu'effectivement c'est différent. Et les gens sont tellement affamés de différence et en même temps de répétition qu'ils saisissent plus très bien et qu'on leur donne plus les moyens eux-mêmes de saisir.
Ça va pas. Qu'est-ce qui va pas ? La manière dont vous racontez les trucs. Mais qu'est-ce que t'as contre ? Rien. Et ça va pas ?
Une émission, mais on n'a pas, on peut pas la faire parce qu'on n'a pas le temps. Le temps, c'est, je vous l'ai dit, ça correspond, une bonne émission d'une heure, c'est autant de temps que pour un bon film, un bon livre, une bonne affaire commerciale, enfin, un bel enfant, c'est un mois de travail et neuf mois de 35 de ça, à peu près. Or, précisément, on voit qu'on a supprimé le temps. Elle est là, la censure.
Je crois que si, je crois de toute manière que Tout va bien est assez en avance. Je crois vraiment que les gens ne se rendent pas compte à quel point, à quel point tout va mal, quoi. À quel point ils sont de plus en plus dans une position fausse. Enfin, finalement, l'échec de Tout va bien, c'est parce que c'est un film sur l'échec. Et un film sur l'échec ne peut jamais être une réussite commerciale. Les gens n'aiment pas voir des histoires de catastrophes, d'échecs psychologiques. Alors, c'est ça le film. C'est l'échec parce, enfin, je veux dire, on a un échec parce qu'on est impuissant. Alors, c'est ça le film. Le vrai sujet, c'est la puissance, en fait. Véritable. Enfin, mais le résultat sur l'écran, c'est un échec.
Peut-être que c'est totalement révolutionnaire. Moi, je veux bien que ce soit plein de bonnes intentions. Mais ça fait partie de ces bonnes intentions qui font que ça retentit dans votre tête. On se dit, oui, finalement, faire un film, ça n'est pas si facile. Il faut être un professionnel. Il faut beaucoup de monde pour le faire. Et ça va tout à fait à l'encontre du but révolutionnaire qui semble être poursuivi par l'équipe qui a été constituée. Enfin, ça me paraît assez exaspérant, assez démagogique, assez condescendant. Enfin, et d'autant plus énervant que... Je sais pas, Pierrot le Fou, tout était possible.
Si tu veux, ce qu'on essaye de dire, si tu veux, des rapports, en repensant mieux les rapports de l'œil, de la main, des tas de trucs comme ça, c'est que quand on fait un film, il faut dire, on sait pas comment ça se passe encore, mais on sait que c'est des trucs qui se passent, que la main qui tient l'objectif, c'est également une main qui reçoit de l'argent pour des certaines raisons. C'est également une main qui fait des caresses le soir, qui peut se branler, qui peut au contraire foutre un coup de poing. Or, tout ça est nié. Moi, je reproche, si tu veux, un film, mais j'en ai fait des pareils, et je le comprends, puisque je ne veux plus les faire exactement comme ça, parce qu'ils ne m'ont pas aidé. J'ai eu les mêmes ennuis après, alors dont j'ai envie de me sortir. J'ai fait 10 films sur les rapports de l'homme et la femme qui ne m'ont pas aidé une brique. Alors, si je commence à être aidé, c'est par de toute autre chose, par le Vietnam, par mai 68, par l'écho de mai 68 dans des fabrications de films d'une manière différente, ou des tas de trucs. Ce qui me gêne dans Le Dernier Tango à Paris, c'est pas du tout qu'on voit Marlon Brando beurrer le cul comme ça. Je trouve très bien, on devrait même le voir plus longtemps et mieux l'expliquer pourquoi et comment et comme ça. Ce qui me gêne, c'est que Bernardo, à ce moment-là, il dit, ce sont mes fantasmes que j'ai mis sur l'écran. Et c'est également les fantasmes que les gens qui payent 2 $ ou 2000 francs vont mettre sur l'écran comme lui. Alors moi je dis, on met pas sûr, il n'y a pas de clap sûr, il y a de clap entre. Un clap, c'est quelque chose qui est entre, qui n'est pas sûr. C'est une coupure entre deux choses. C'est ça un clap, c'est ça. Mais ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une coupure de quelque chose, ça coupe quelque chose. Non, soit ça passe comme ça, oui. Ce qui à mon avis n'a pas grand intérêt. Si vous changez le moindre truc, Ça veut dire que vous faites ce travail en dehors, ce que je conçois tout à fait, puisqu'elle n'a pas la possibilité, mais que moi, je ne peux pas être d'accord avec ce travail, même si je le trouve pas mal après, que même le fait de le trouver pas mal après ne m'intéresse pas.
Puisse chacun être son propre historien.
Moi, France, 1972.
Ça passe comme ça, c'est inexplicable, c'est beau. Et on a le bourdon. On a le bourdon, on se dit, bah oui, c'est la merde, et puis... puis c'est tout, enfin.
Puisse chacun être son propre historien. Alors il vivra avec plus de soin et d'exigence.
Moi, toi, lui, elle, nous, vous.
Voix, France Girard, André Dagnet. Extrait du film Tout va bien. Clap sur Jean-Luc Godard. Pierre Girard, Richard Rein, Jean-Marc Cory, Janine Chelet.
Thank you.
C'était Clap sur Jean-Luc Godard par Pierre Girard et Richard Rein, diffusé la première fois le 25 avril 1973 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.